Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
C'est ici que ça s'est passé en fait.
MJV, c'est vous qui représentez le système.
Il est 9h40 sur France Inter et on est toujours dans cette dernière semaine d'Instorem, on en profite.
Vous êtes en direct, allez-y.
Mon invité est britannique, British.
Yes, indeed.
Yes, indeed. Il fut l'un des visages du service des sports de Canal+, avant de rejoindre la chaîne beIN Sport, qui diffuse cette année l'intégrale de la Coupe du Monde de football. Voilà, c'est bon. Ça. L'occasion pour lui de retrouver les Anglais flamboyants sur le terrain en ce moment et de débriefer les matchs avec force consultant et force décontraction. On en profite pour causer ensemble des relations parfois tendues entre joueurs et journalistes et de tout ce qui fait le sel médiatique de ce grand moment footballistique.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Good morning, Darren Tullet.
Good morning. Je me demandais qui c'était cet invité. Il avait l'air sympa. C'est moi.
Bah, c'est vous. C'est absolument vous. Voilà. Donc l'émission s'appelle le Russian. Dites-le vous, parce que moi j'ai un accent affreux.
Russia Night Show.
Russia Night Show. Russia comme Russie où se déroule la Coupe du Monde. C'est sur beIN Sport. C'est tous les soirs, juste après le match du soir, donc aux alentours de 22h, c'est ça?
Oui, juste avant. Oui.
Voilà. Et c'est une sorte de talk show. On va vous raconter. C'est en public. Et je rappelle donc que beIN diffuse l'intégrale de la Coupe du Monde. Si vous me permettez, Darren Tullet, quelques petits mots d'actualité des médias à propos notamment des programmes de France Inter qui vous attendent ce soir dès 19h15. On y va. Voilà, je crois qu'on sera nombreux, puisque Nicolas Demorand vous en a déjà parlé tout à l'heure, nombreux ce soir à écouter le téléphone sonne à 19h15 sur France Inter. Avez-vous lu Le Lambeau, ce livre éblouissant de Philippe Lançon, paru chez Gallimard? Philippe Lançon, effroyablement blessé au visage lors de l'attentat de Charlie Hebdo. Il y raconte le long calvaire médical, la reconstruction de son visage, opération après opération. C'est un texte rare et magnifique sur l'hôpital, sur le corps, sur le médecin, sur la richesse et la complexité de sa relation avec son patient. Fabienne Sintès reçoit ce soir Philippe Lançon et Chloé. Oui, Chloé, la chirurgienne du livre. Vous pouvez les questionner tous les deux ou bien témoigner au 01 45 24 7000. Moi aussi, je vais essayer de poser une question ce soir. Voilà, Darren Tullet, retour à l'actualité médiatique et footballistique. La Liga, c'est le championnat de football espagnol.
El paso de Messi para Paulinho.
Toujours plus fou, toujours plus cher. Telefonica vient de s'acheter les droits de diffusion de la Liga de 2019 à 2022 pour 3 milliards d'euros. Ce chèque colossal permet à l'opérateur télécom de battre aux enchères son rival, la société Mediapro. Alors Mediapro, oui, ça vous dit quelque chose? Oui, oui, c'est bien cette société espagnole arrivée en France sans crier gare, on l'attendait pas du tout, et venue rafler les droits de notre championnat de Ligue 1 au détriment de Canal+ et de beIN Sport. Voilà, hein, c'est comme ça que ça s'est fait. On en sort à peine de cette séquence assez traumatisante. Voilà, réaction d'Arène Tullet, puisque vous avez connu hein, la grande époque Canal+, très très bien installée, confortablement installée dans la Ligue 1.
Effectivement, tout change. On est dans un monde très mouvant, les droits sont de plus en plus chers, mais on comprend que c'est là où on peut se garantir une certaine audience. Le sport en direct aujourd'hui, c'est encore l'un des rares rendez-vous qui unissent les gens énormément, et on le voit en ce moment avec la Coupe du Monde. On ne peut pas regarder un match de foot en différé. Quand l'équipe de France joue à 16h, eh bien, il faut qu'on trouve une excuse pour aller regarder ça quelque
D'ailleurs,
part.
D'ailleurs, les audiences sont excellentes. Hein.
Oui, carrément.
Les audiences sont excellentes depuis.
Ils veulent vivre ça en direct, c'est ça. Le sport est au sommet comme ça. Comme je disais, on ne peut pas enregistrer un match et le regarder 4 heures plus
tard. Et vous qui êtes britannique, Amazon Prime, donc qui commence à concurrencer Netflix avec des offres à la carte, hein, où on achète ce qu'on regarde, séries, documentaires, cinéma, etc. Amazon Prime vient s'offrir en Angleterre un petit lot de matchs.
C'est ça, quelques matchs par saison, effectivement.
Ouais. Donc ça devient un concurrent direct à la télévision.
Ah oui, carrément. Mais on l'attendait. J'attendais de voir qui allait agir le premier. Le football anglais est très suivi, particulièrement en Angleterre forcément, mais un petit peu sur la planète entière.
Partout.
Et donc les gens se disent, ça aussi c'est une ouverture vers une audience, on va toucher beaucoup de gens. Et le sport aujourd'hui, à la télé, c'est un marché qui est en train de changer, mais toutes les saisons.
Absolument, toutes les saisons, et dans quelques années, on ne sait absolument pas comment, où et quand ce sera diffusé. Allez Darren Tullet, on y va.
Le dernier triplé brésilien à une Coupe du Monde.
Ronaldo.
Non, elle n'a jamais marqué un triplé à la Coupe du Monde.
Oh, brésilien, oh.
Non. Allez, Maxwell.
Non. Mario.
Rivaldo.
Non, pas Rivaldo.
Romario.
Le plus grand de tous.
Pelé.
Il bosse vite.
Pelé, bien sûr.
Ah oui, ça buzz vite. C'est le Russia Night Show. Donc, c'est cette sorte de talk show que vous animez tous les soirs sur Bein Sport où on débriefe les matchs. Il y a des résumés, il y a des interviews d'après-coup, il y a beaucoup d'humour et de décontraction. C'est un peu l'anti après-match d'RMC ou qu'on a vu également sur Canal. C'est-à-dire que vous avez des sacrées grandes gueules hein, autour de la table. Et pourtant, on n'est pas dans le coup de gueule, on n'est pas dans le tacle, on n'est pas dans le massacre qu'on a pu se dérouler à l'antenne ces dernières années dans le massacre systématique des têtes de Turcs des journalistes.
On est d'accord, on aime bien, enfin, sur Bein Sport, c'est une chaîne qui a le sourire assez facile. Mm. Et moi, effectivement, avec ma culture anglo-saxonne, j'aime l'idée de faire un peu de divertissement avec ça. Le sport, c'est sérieux, oui et non. On aime tous se passionner pour un événement sportif, mais on en rit aussi et on se chambre par rapport à ça. Et j'aime bien aussi avoir ces ingrédients autour de la table. Donc, on a des anciens joueurs du top niveau, on a des anciens entraîneurs.
Alors,
aussi.
Alors, vous avez Luis Hernandez, Robert Pires, Marcel Desailly, Arsène Wenger, Jean-Pierre
Arsène
Papin.
Wenger, oui.
Ouais, Arsène Wenger, dit-il. Il n'en revient pas lui-même, c'est ça.
Ouais, c'est
Arsène
top.
Wenger, Jean-Pierre Papin, Sonny Anderson. Donc, eux
Christian
tous,
Vieri, bien sûr, notre étalon italien.
Je ne les ai pas tous cités, ils se connaissent très bien. Ils sont à l'antenne absolument toute la journée pour commenter les matchs sur Bein Sport. Donc, en plus, vous connaissez les obsessions des uns et des autres. Par exemple, Luis Hernandez qui est complètement toqué d'N'Golo Kanté. Fernandez qui est complètement toqué d'N'Golo Kanté en
oui,
ce moment.
Il est tombé amoureux,
donc
oui.
C'est une manière de se vanner, de se taquiner, etc.
Voilà.
etc.
Voilà. C'est ça. Donc c'est ça qui donne la bonne humeur à cette émission. Mm. Je les connais tellement bien. Je connais mon Italien, Vieri, qui n'aime pas les Anglais. Mm. Donc tous les soirs, je vais le chercher en lui rappelant que l'Italie n'est même pas à cette Coupe du Monde. Mm. Fernandez, oui, il adore N'Golo Kanté. Donc je lui taquine un petit peu par rapport à ça. Et hier, avec l'équipe de France, j'allais dire la défaite de l'équipe de France. Tellement oui. c'était peu enthousiasmant.
0-0
pas
contre
un échec, hein, ouais. un match nul. Mais hier, plutôt que de détruire, forcément, il y en a qui ont dit qu'ils étaient déçus. Mm. Mais c'était aussi comment on fait pour faire mieux la prochaine fois, comment la France va s'en sortir. Et on aime, voilà, ne pas juste être là pour être négatif tout le temps.
Alors, je le disais, c'est vos retrouvailles avec le foot anglais aussi sur le terrain, puisqu'en arrivant sur Bein Sport, vous avez quitté le championnat anglais qui, à une époque, était diffusé sur Canal+, et qui est parti maintenant sur un autre groupe, le groupe SFR. Le but de Harry Kane contre la Tunisie.
Et danger à nouveau avec les quatre Anglais qui vont plonger. Oh, oui. Il ne pourra pas la sauver deux fois face à l'ouverture du score d'Harry Kane pour l'Angleterre. 11e minute, la digue qui résistait a fini par céder. L'Angleterre mène 1-0.
Voilà, demain l'Angleterre.
Vous n'êtes pas très politiquement correct
non.
à me mettre
le commentaire
de TF1,
mais c'est là qu'on l'a
Grégoire
trouvé.
Margoton, c'est
absolument.
Un ami, donc je laisse passer
c'est
ça.
C'est vos concurrents. Demain l'Angleterre joue contre la Belgique, match pour la première place du groupe. L'Angleterre est déjà qualifiée
oui.
et avec quel panache. 6-1 contre le Panama, 2-1 contre la Tunisie. Les Anglais d'Arène Tulette, et ça il faut le raconter parce que ça fait très longtemps que c'est pas arrivé, sont dingues de leur équipe.
Ah oui, bien sûr. Et malheureusement, en quelque sorte, parce qu'on ne fait jamais rien à ces compétitions. Vous savez, ce qui est drôle, c'est que même les Français y croient plus que les Anglais. On a gagné la Coupe du Monde en 66. Mm. Bon, c'est vrai que c'était 32 ans avant l'équipe de France. Je vous le dis ça comme ça. Mm. Mais depuis, on a fait une demi-finale en 90. On est nuls régulièrement.
C'est ça. Non, mais le foot anglais était en lambeaux. On est bien d'accord.
L'équipe nationale, horrible. Il y a deux ans,
un championnat
on s'est fait éliminer par l'Islande. La honte totale. Il y a 4 ans, c'est le Costa Rica, on n'arrive pas à battre le Costa Rica. Donc là, on bat le Panama. Eh oui, c'est la fête. On a
Alors,
battu une
écoutez enfin, comment la fédération britannique a dévoilé la liste des 23 joueurs sélectionnés avec un petit clip absolument Top. Adorable et enthousiasmant.
Let's go.
Raheem Sterling.
Of course he's going, bro.
John Stones, go on, lad.
Alexander Arnold.
Danny Rose.
Que des ados de 14 à 20 ans, des filles et des garçons fous de joie, faisant oui. du foot amateur avec leur maillot un peu déglingue et dans des terrains un peu... C'était génial,
ouais,
c'est
vrai. À retrouver sur Internet. Mais vous savez, l'Angleterre, quand on a joué l'autre jour contre le Panama, 86% des gens qui étaient devant une télévision regardaient les matchs.
86%.
Donc on est un pays qui
de
vit pour
de
le
marché.
Football.
Oui, 86% de part de
ouais.
marché. C'est même en Union soviétique, à la grande époque.
C'est un peu comme nous en ce moment sur France Inter. il me semble.
C'est ça.
Et donc, en Angleterre, on vit pour le foot. Et vous pouvez demander à n'importe qui, à une grand-mère, comme à un tout petit bout de chou dans la rue, vous êtes pour qui? Ils savent de quoi vous parlez. Vous voulez dire football et vous voulez dire pour quelle équipe? Les gens vibrent pour ça. J'ai ma maman au téléphone qui ne regarde même pas la télé. Elle écoute les matchs à la radio, ma mère. 74 ans, mais elle suit son équipe tous les samedis à la radio.
Bon,
mais
voilà, elle est en Angleterre.
Elle est folle. Ouais.
Elle est en Angleterre.
Ouais, on est tous un peu fous.
Et le foot français dans tout ça. Alors hier, France-Danemark, on l'a dit, cette équipe, la ferveur a quand même du mal à prendre. Elle est très lisse, rien ne dépasse médiatiquement. Alors parlons justement des relations entre les équipes nationales et les journalistes. Paul Pogba en conférence de presse, c'était la première fois depuis 4 ans, on l'écoute.
Bonjour Paul.
Bonjour.
Ça fait quand même longtemps qu'on ne t'a pas vu. Il y a beaucoup d'excitation à l'idée de te voir devant nous. Il y a beaucoup d'incompréhension aussi entre tes rapports avec nous. Est-ce que tu nous aimes, Paul?
Je vous aime tellement. Vous m'avez manqué.
Alors, plusieurs questions pour vous, Darren Tollet. D'abord, vous êtes anglais. Vous qui maniez le « you » en anglais. Ce tutoiement des journalistes aux joueurs, vous le percevez comment?
J'ai du mal.
Vous avez du mal?
Oui, j'aime dire aux journalistes de chez nous, à Bein, de vous voyez. Je pense que j'ai compris comment ça marche ici, avec votre langue. Et pour moi, non, il faut avoir un certain respect.
Parce que quand on n'est pas journaliste sportif, c'est assez choquant. Aucun d'entre nous ne se permettrait de faire ça. Après, c'est un code et c'est comme ça depuis toujours.
Oui, mais pour moi, c'est quelque chose de pas très sain, justement. On n'est pas en train de réduire le sportif à un niveau... peut-être un petit manque de respect. Moi, en tout cas, j'insiste pour le vouvoiement. Je pense que c'est normal. Paul Pogba est quelqu'un qui aime contrôler sa communication.
Absolument.
Les jeunes
Absolument.
Sportifs sont de plus en plus... ils ont cette possibilité aujourd'hui aussi, avec
ils
les
verrouille.
Réseaux sociaux.
Ouais.
Ils peuvent décider quand ils parlent et quand
Absolument.
Et comment et avec qui. Donc, parfois, pour nous, les journalistes, c'est frustrant parce qu'on se dit, on aimerait bien avoir
un petit
peu plus d'accès.
Et puis, quelle relation ils ont aux journalistes? On se souvient que Griezmann et Paul Pogba avaient donné une interview en duo dans le Canal Football Club de vos confrères de Canal avant le Mondial. Griezmann avait dit à l'attention des journalistes, aidez-nous, on a besoin de vous. Laissez la critique pour les autres pays. Et hier, Paul Pogba, qui s'est fait siffler par le public au moment de ce France-Danemark très décevant, a dit, on a besoin de supporters, pas de spectateurs. Est-ce que ce moment de tension entre l'équipe nationale et les journalistes, voire avec le public, est-ce qu'il est typiquement français ou pas nécessairement?
Non, mais je pense que dans la tête des joueurs, ça se passe comme ça. Dans les autres pays, c'est pareil. Les journalistes ne sont pas là pour applaudir les joueurs. Ils sont tous supporters. Les journalistes qui couvrent l'équipe de France veulent tous que l'équipe de France aille en finale. Déjà parce que ça veut dire qu'ils vont rester sur place.
Il n'en reste pas moins journalistes.
Évidemment, le job, c'est pas d'applaudir. Le job, c'est de faire les papiers, chercher les infos. Didier Deschamps hier se plaignait que tout le monde avait imprimé, raconté son équipe pour le match bien avant. Et Jean a donné la tactique de l'équipe de France à l'adversaire. Mais c'est pas ça. Vous pouvez pas critiquer un journaliste parce qu'il a fait son job.
Boulot.
C'est son boulot d'aller chercher les infos. C'est pour ça qu'on est journaliste. C'est notre métier. Donc, on n'est pas là pour être supporter. On est là pour écrire et avoir un avis, peut-être, mais surtout pour relater les histoires. Et je pense qu'ils se trompent, les Français, en pensant que les journalistes, c'est ça le problème. Non, pas du tout. Les spectateurs, oui, vous pouvez demander plus de la part des supporters. Pourquoi pas et demander aux Français d'être plus derrière leur équipe. Ça, je peux entendre.
Mais pas à des cartes de presse.
Mais pas aux supporters, aux journalistes d'être fan.
Alors, Coupe du Monde et journalistes, on continue. Séquence assez intéressante. La Coupe du Monde et les journalistes féminines, les journalistes femmes, les journalistes sportives femmes. En Grande-Bretagne, sur BBC One, un match de Coupe du Monde a été commenté, écoutez-moi bien, pour la première fois par une femme. Elle s'appelle Vicky Spart.
So, Portugal with the chance to go top of Group B, at least temporarily, ahead of Spain's clash with Iran tonight. For Morocco, the equation is very simple. Lose and they're out of the World Cup.
Vicky Sparks. Oui. Portugal!
Oui!
Quel verbe!
Mais aujourd'hui, franchement, en 2018, c'est pas le sexe qui compte, c'est la connaissance, c'est le talent, n'est-ce pas? Ouais. Donc, en Angleterre, on a mis maintenant de plus en plus de femmes à commenter, à présenter des émissions de sport. Je pense qu'en France, on a encore un peu de retard par rapport à ça, même si ça va de mieux en mieux. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai beaucoup de collègues à beIN Sport, des femmes qui présentent, mais pour commenter, c'est encore plus compliqué France, je trouve.
En France, une femme qui commente, alors là, pour le coup,
on est-ce que vous êtes prêt à entendre une voix féminine raconter un match de foot?
Moi, oui.
C'est ça la question. Moi, tant mieux.
Mais vous avez par exemple une Anne Lorbonnet sur le terrain qui parle beaucoup de langues, qui est extrêmement compétente, qui connaît très très bien la matière. Là, on parle de commenter les matchs, c'est encore très différent. Et puis alors, justement, sur ces femmes qui sont de plus en plus nombreuses à couvrir le sport, et dans tous les pays, on voit depuis le début de la Coupe du Monde ces séquences absolument sidérantes qui sont retransmises sur les réseaux sociaux. Une foultitude de femmes journalistes micro en main, face caméra, qui se font alpaguer, embrasser de force, agresser, ploter dans la rue par des supporters, par des gens dans la rue. On en voit tous les jours.
Oui, c'est consternant et en quelque sorte, c'est... on met une miroir à notre société. Ça veut dire qu'il y a encore plein de mecs qui pensent que ce genre de comportement est acceptable, qui peuvent aller poloter une fille dans la rue, devant une caméra en plus, devant plein de témoins, et penser que c'est rigolo ou que
c'est
ça passe.
C'est devant une caméra et c'est en direct. Ouais. Et la caméra n'est pas un frein. Ouais. C'est là où vous avez raison, ça n'est pas un frein. Au contraire. Ça pimente encore plus.
Oui, ça m'inquiète beaucoup. Mais ça, pour moi, c'est aussi, il y a des parallèles ailleurs avec le racisme, par exemple, qui revient petit à petit. Je ne sais pas que les racistes avaient disparu, mais la parole a été libérée ces derniers temps.
Vous trouvez dans le sport?
Je trouve dans le sport, mais dans la société aussi. En France, en Angleterre, avec le Brexit, par exemple, de plus en plus de gens maintenant commencent à dire, peut-être qu'ils n'osaient pas dire il y a encore 2, 3, 4, 5 ans.
Et c'est pour ça qu'elle fait du bien aussi, cette équipe anglaise. Dans cette période de Brexit, dans une société très fracturée,
jeune équipe,
sentir tout le pays
un bon mélange,
etc.
Effectivement. C'est un peu comme vous avez eu en 98, un moment en tout cas, ce mélange positif qui a pu faire lever les Français avec la joie. J'ai eu la chance de le vivre parmi vous. C'était quand même une époque absolument formidable. Et en Angleterre, on voit un petit peu tout ça et peut-être que ça va nous aider à combattre cette montée de haine.
Et ce lapsus qui a été commis par votre confrère de beIN Sport, Grégory Presley, je crois qu'il s'appelle, je ne sais pas comment on prononce son nom, qui commentait un match avec l'équipe du Nigeria en disant « il faudrait qu'ils reprennent du banania ». Bon, la chaîne s'est excusée, mais ça c'est terrible quand ça sort comme ça spontanément.
Oui, ben je pense que spontanément, effectivement, c'est le mot. Malheureusement, on est tous, quand on est en direct, en danger, en quelque sorte. On peut dire une petite connerie, qu'on regrette tout de suite. C'est pourquoi j'ai choisi ce mot-là. Et ça peut vous poursuivre. Mais Greg, c'est tellement un type à qui on peut pas penser du mal. C'est le mec le plus gentil de beIN Sport. Donc j'ai eu un peu de mal pour lui, mais je pense que l'incident est clos.
C'est ça, c'est le direct. C'est le retour de la télévision en direct, parce qu'en réalité, il n'y en a pas tant que ça de la télévision en direct. Et donc,
même la radio aujourd'hui, attention à ce que vous allez dire, Sonia.
Merci beaucoup, Darren Tullet. Donc jeudi, le Russia Night Show, c'est tous les soirs après le match.
Tous les soirs.
Voilà, every night à 22h ce soir, avec une bande de grandes gueules et beaucoup, beaucoup de bonne humeur. Merci beaucoup d'être venu sur France.
Merci pour votre accueil, ça m'a fait plaisir.
C'est la fin de l'émission. Bonjour Ali Abbaye.
Bonjour Sonia de Villers.
Avec qui vous partez en vacances alors?
Avec des amis, mais justement on pose la question ce matin. Est-ce d'ailleurs une bonne idée de partir en vacances entre amis? Pourquoi les vacances entre amis sont souvent une épreuve de vérité? C'est assez particulier, on découvre certains défauts.
J'ai l'impression que
ça vous parle, Sonia de Villers. Justement, des histoires. Racontez-nous toutes vos histoires de vacances entre amis.
Le mieux, c'est les amis avec les enfants.
Ah oui, avec les enfants. 01 45 24 7000.